La paix n'a jamais été aussi proche. Après 108 jours de guerre, l'Iran et les États-Unis sont prêts à signer un accord. Mais un accord sur quoi ? Sur le détroit d'Hormuz ? L'économie mondiale n'attend que sa réouverture. Sur le nucléaire iranien ? Y mettre un terme était l'objectif initial des Américains. Ou sur la fin du conflit entre Israël et le Hezbollah ? Ça, c'est un prérequis pour Téhéran. Je vous détaille tous ces enjeux avant de voir qui sortira gagnant de cet accord. J'en discute avec mon invité dans la deuxième partie de cet épisode, le spécialiste de l'Iran, Sébastien Regnault. Je l'interroge, ce projet d'accord favorise-t-il l'un des deux camps ? Règle-t-il les questions qui avaient poussé Donald Trump à entrer en guerre ? Et que manque-t-il dans ces négociations ? L'essentiel est peut-être dans ce qui en est absent. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé. Félicitations à tous.
Message de Donald Trump sur son réseau Truth Social.
J'autorise pleinement la réouverture du détroit d'Hormuz sans droit de passage et parallèlement la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche, que le pétrole coule à flot.
Cette fois, il semblerait que ce soit la bonne. Depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran le 28 février, Donald Trump a annoncé près d'une quarantaine de fois l'imminence d'un accord de paix. Ce dimanche 14 juin, au 107e jour de guerre, Iran et États-Unis sont bel et bien parvenus à un protocole d'accord. Antoine Lard est le correspondant de BFM TV à Washington. Il était dans le jardin de la Maison-Blanche lors de l'annonce.
En tout cas, pour Donald Trump, le timing de cette annonce tombe vraiment à pic. Son adversaire organise un grand gala de MMA dans les jardins de la Maison-Blanche. Il y a une énorme structure qui a été installée, une énorme arène, plus cette fan zone dans laquelle où je me trouve, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues. Et Donald Trump, eh ben, ce soir, comme il l'avait prévu, va pouvoir triompher. Il sera là dans le costume d'un président qui a mis fin à cette guerre et qui a vaincu. C'est en tout cas comme ça qu'il va présenter les choses.
Les Iraniens aussi présentent cela comme une victoire. Kazem Gharibabadi est le vice-ministre iranien des Affaires étrangères.
Fin permanente et immédiate de la guerre et des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban.
Ces deux pays doivent désormais signer cet accord le vendredi 19 juin, à Genève, en Suisse, lors d'une cérémonie officielle. Il s'agit en fait d'un protocole d'accord, d'un cadre, pour fixer les grandes lignes d'un accord de paix à venir. L'Iran espère d'ailleurs que ce premier texte sera ensuite ratifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bref, ce sont de premières étapes, mais la réaction d'Emmanuel Macron, prudente, reste tout de même optimiste.
Voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Hormuz dans la durée, et évidemment la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran. Et on regardera aussi les voies et moyens de diversifier les routes de l'énergie qui sortent de la région pour réduire notre dépendance. Au fond, le cœur de cette discussion sera aussi les conséquences de la crise au Proche et Moyen-Orient sur nos économies.
Alors que contient ce protocole d'accord ? On a entendu le message de Donald Trump. Le premier point, c'est la réouverture du détroit d'Hormuz, point de passage de 20% des hydrocarbures du monde, bloqué par l'Iran au début de la guerre, avant que les États-Unis n'imposent à leur tour un blocus aux navires commerçants avec Téhéran. Mais pour autant, les pétroliers vont-ils pouvoir naviguer librement dans ce détroit ? L'Iran souhaiterait en fait faire payer le passage, comme l'explique Noémie Vira, qui est l'envoyée de BFM TV au Qatar.
Le principal point de friction concernait donc le détroit d'Hormuz. Une phrase aurait été rajoutée in extremis dans le texte de l'accord et qui précise donc la gestion des services de navigation décidés conjointement par l'Iran et Oman. Une disposition qui vise à affirmer la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Hormuz. Pendant 60 jours, le passage dans ce détroit sera totalement libre, c'est-à-dire sans autorisation préalable, sans droit de passage, mais cette gratuité ne sera que temporaire. Ensuite, passé ce délai, l'Iran espère tirer des revenus, notamment en proposant des services de navigation, d'assistance maritime, de sécurité aux navires qui transitent par le détroit d'Hormuz. Reste à savoir désormais comment réagiront les grands armateurs, les assureurs, face à ces futures redevances.
Il n'empêche, dans la foulée de l'annonce, les cours du pétrole ont diminué, moins 5%, plaçant le baril autour de $80, ce qui est tout de même 10 de plus qu'avant la guerre. Alors en faisant rouvrir ce détroit, Donald Trump règle un problème, certes, mais un problème qu'il a lui-même engendré en déclarant la guerre. Il n'y avait pas de blocus avant cela. Qu'en est-il donc de ses premiers objectifs ? Il faut remonter à ce que le président américain disait le 28 février en attaquant l'Iran. Son principal objectif, c'est alors d'empêcher les Iraniens d'obtenir l'arme nucléaire. Et d'après les Iraniens, l'objectif est bel et bien de parler nucléaire dans cet accord. Mais pour dire quoi ? Est-ce que ce sera du même acabit que l'accord de Vienne, le JCPOA signé en 2015 sous Barack Obama ? Des restrictions sur le nucléaire contre une levée progressive des sanctions économiques ? À son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait déchiré cet accord de façon unilatérale. C'est donc un point essentiel de l'accord à venir. Mais les autres objectifs de guerre du président américain sont pour l'heure absents des négociations. Neutraliser les capacités balistiques de l'Iran, il n'y a rien sur l'armement de Téhéran. Un changement de régime, le guide suprême Ali Khamenei a été tué au début de la guerre, mais remplacé par son fils Mojtaba Khamenei. Les Américains ne semblent toutefois plus en tenir compte. En revanche, ce qui pourrait peser sur l'avenir de cet accord, c'est l'autre guerre au Moyen-Orient, celle entre Israël et le Hezbollah libanais. L'Iran soutient la milice chiite. D'après le régime, l'accord inclut le Liban. Il faut dire que pour Téhéran, pas question de conclure un accord si l'État hébreu continue d'attaquer son allié dans le sud du Liban. Et pourtant...
Ici, un ministre d'extrême droite a appelé à renforcer les positions d'Israël au Liban et les opérations qui y sont menées.
Puis Hugo Smag, envoyé spécial de BFM TV en Israël.
Que Israël n'était pas concerné par cette clause du Liban. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire qu'effectivement Israël va continuer ses opérations au Liban ou est-ce qu'Israël va s'arrêter ? Pour le moment, impossible de le savoir. Cela fera certainement l'objet de négociations.
Bonjour Sébastien Regnault.
Bonjour.
Spécialiste de l'Iran, sociologue, politologue, on vous doit La modernité iranienne, livre paru aux éditions de l'Harmattan. À l'annonce de ce protocole d'accord, on l'a entendu, chacun revendique la victoire. Iran, États-Unis, à vos yeux, lequel des deux pays en sort gagnant ?
C'est plutôt l'Iran qui en sort vainqueur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les États-Unis ont plutôt reculé dans l'histoire, puisqu'en fait, sur tous les problèmes qui existaient avant la guerre, aucun n'a été véritablement résolu encore. Et maintenant, il y a le détroit d'Ormuz en plus comme problème. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble de la situation pré-guerre, nous sortons de cette guerre dans une situation où finalement les États-Unis ont dû trouver un protocole d'accord, j'insiste sur le mot protocole d'accord, pour pouvoir libérer le détroit d'Ormuz, qui était la condition première, la priorité première pour relancer un petit peu l'économie mondiale qui était extrêmement affectée par la fermeture de ce détroit d'Ormuz, et puis après pour se donner le temps de régler l'ensemble des autres problèmes.
Parce que voilà, c'est un peu tout le paradoxe de cette affaire, c'est que les États-Unis ont engagé la guerre et ils se retrouvent à devoir répondre à l'ensemble des questions qui étaient ouvertes avant la guerre, avec en plus ce détroit d'Ormuz qui était pourtant ouvert avant que cette guerre ne débute. Dans ce communiqué de l'agence iranienne, on apprend que le détroit d'Ormuz pourrait être rouvert selon les arrangements iraniens. Comment est-ce que vous comprenez cela, vous ?
Oui, c'est-à-dire que les Iraniens, leur point de vue, c'est que comme il y a beaucoup de bateaux civils qui passent, mais aussi des bateaux militaires, et que depuis 47 ans, finalement, ils voient passer les bateaux militaires en face de chez eux pour construire des bases militaires, ces bases qui ont permis aux États-Unis de les attaquer, ils veulent pouvoir assurer un contrôle sur ce détroit d'Ormuz. C'est une forme de service. Alors, c'est contre le droit international, c'est pour ça que le monde entier s'offusque de cette nouvelle donne, de cette nouvelle situation.
Parce que les détroits ont un statut un petit peu particulier dans le droit maritime et sont censés être accessibles à tous les bateaux, même s'ils sont proches des côtes, en gros.
Voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a une liberté de navigation qui est de mise. Beaucoup de bateaux, par la force de la géographie, lorgnent un petit peu sur les eaux territoriales iraniennes toujours. Et donc, les Iraniens ont profité, entre guillemets, de cette guerre pour avancer un pion sur ce détroit d'Ormuz. Non pas seulement, et il faut insister là-dessus, sur les bateaux civils, mais surtout sur les bateaux militaires. Il y a énormément de bases militaires dans la rive du Golfe arabe.
On a eu ces bases militaires américaines, notamment visées par l'Iran.
Visées par l'Iran, en partie détruites, mais qui n'ont pu être développées par les États-Unis que parce qu'ils passaient sur ce détroit d'Ormuz pour pouvoir apporter les équipements nécessaires à la construction de ces bases. À partir de ce moment-là, si les bateaux militaires ne peuvent plus passer sur ce détroit, il va falloir approvisionner ces bases militaires américaines par les airs. Et ce n'est pas du tout le même même coup, c'est pas du tout la même facilité.
L'autre question essentielle de ce protocole d'accord, c'est la question du nucléaire qui avait poussé Donald Trump à s'engager dans cette guerre. Le président américain qui espère une pause en gros de 15 ans sur l'enrichissement d'uranium par l'Iran. C'est en gros le retour à l'accord de 2015 que Donald Trump lui-même avait déchiré en 2018. Il n'a avancé sur rien, c'est un peu retour à la case départ.
C'est un retour à la case départ. On voit pas trop comment les Américains pourraient obtenir mieux que le JPOC qui avait été signé par Obama, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine et la Russie. C'était quand même un accord lourd. Hein. Bon, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a déchiré le JPOC sur le nucléaire iranien en disant sur le JPOC, moi je vais faire mieux, je vais empêcher à l'Iran de faire tout enrichissement d'uranium, ce qui est autorisé dans le droit international selon le traité de non-prolifération, mais à des taux de 2-3%. Voilà, le jour où finalement les Américains ont rétabli des sanctions contre l'Iran alors que l'Iran respectait cet accord, eh bien les Iraniens ont décidé d'aller plutôt vers une orientation militaire de leur programme nucléaire. Et alors c'est ça qui va être en question, c'est-à-dire que dorénavant il y a 440 kilos d'uranium enrichi à 60% en Iran.
Que Donald Trump n'a pas réussi à récupérer alors qu'il en avait l'ambition avec sa guerre.
Voilà, et les Iraniens et les Américains se seraient entendus à peu près, bon ça reste à confirmer évidemment, que ce stock d'uranium enrichi soit dilué, mais sur place. Il n'est pas question pour l'Iran que cet uranium enrichi soit exporté vers l'étranger. Alors s'il est dilué, effectivement, il ne représente plus une menace de pouvoir constituer une bombe nucléaire avec ce stock.
Puisque l'idée, c'est qu'avec cet uranium enrichi à 3%, il faut en gros un an pour avoir le temps de l'enrichir suffisamment et l'utiliser ensuite comme une arme. Donc ça met une sorte de sas de sécurité.
Voilà, c'est ce qu'on appelle en prolifération un seuil nucléaire. C'est-à-dire que sur quel seuil nucléaire, le traité de non-prolifération que l'Iran a signé il y a très longtemps, à l'époque du Shah, avant la révolution islamique et le nouveau régime islamique, s'était engagé en signant le traité de non-prolifération atomique de respecter le seuil nucléaire civil, c'est-à-dire de ne pas aller au-delà vers le nucléaire militaire. La négociation qui va en rentrer entre l'Iran et les États-Unis, c'est quel seuil nucléaire pour l'Iran, pour quel rôle dans la région, c'est-à-dire quelle position géopolitique, quelle relation avec les États-Unis, etc. C'est une reconnaissance, si vous voulez, pour les États-Unis de la souveraineté de l'Iran, en échange d'une reconnaissance d'un seuil nucléaire du côté américain.
Il y a aussi une question d'argent dans ce protocole d'accord, notamment une somme de reconstruction qui sera donnée par les États-Unis à l'Iran, 300 milliards de dollars, ça correspond en gros à ce qui a été détruit pendant ces 3 mois de guerre, ou alors il y a quand même un butin de guerre qui va être récupéré par l'Iran?
Alors le butin de guerre, si vous voulez, il y a deux questions. Il y a la question des avoirs gelés iraniens. Donc
ça c'est 24 milliards.
Voilà, c'est 24 milliards. C'est de l'argent que l'Iran dispose dans des banques à l'étranger, notamment beaucoup au Qatar. Ces avoirs étaient gelés par les Américains. Et ça remonte justement à l'arrivée de Donald Trump lors de son premier mandat. C'est là, à ce moment-là, qu'il avait décidé de geler tous les avoirs iraniens à l'étranger. Donc l'Iran dispose d'argent à l'étranger et cet argent appartient à l'Iran. Et donc là, dans l'accord qui est sur le point d'être signé, il est question que cet argent soit débloqué, notamment par le Qatar, pour donner un petit peu de souffle à l'économie iranienne. Ensuite, la question des 300 milliards, alors ça, va falloir rentrer dans le cœur du sujet, mais c'est plus des investissements, si vous voulez, étrangers, américains, saoudiens, etc., qataris, de tous les pays. Il y a aussi de l'argent à se faire, si vous voulez, en Iran. Il y a deuxième réserve de gaz au monde, troisième réserve de pétrole. C'est des investissements industriels que les Américains veulent proposer à l'Iran pour les aider à redévelopper leurs infrastructures industrielles.
On comprend qu'aller chercher du pétrole en Iran, ça soit intéressant pour Donald Trump, mais enfin, comme vous le dites, c'est aussi redonner un second souffle à l'Iran et donc soutenir ce qui a été décrit ces derniers mois comme une sorte de diable absolu et donc finalement soutenir un régime dont on voulait la tête.
Oui, mais alors voilà, ça fait 47 ans, si vous voulez, que cette dialectique est posée par les États-Unis. Ils étaient dans une logique de renversement du régime iranien. Et c'est ça qui va changer. C'est-à-dire que là, nous avons aux États-Unis une extrême droite, extrême droite avec cette population MAGA. En Iran, nous avons des ultra-conservateurs. Et finalement, s'il y a une possibilité de dialogue en cette extrémistes de part et d'autre, ça va laisser libre cours à une reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, et donc un apaisement de la situation pour pouvoir apaiser aussi la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient. En fait, pour les États-Unis, il s'agit de reconnaître, c'est la reconnaissance de la République islamique d'Iran comme souveraine en Iran.
Ce protocole d'accord, c'est donc aussi un pas diplomatique de reconnaissance et de normalisation des relations entre les deux pays, c'est presque l'essentiel de l'accord.
Ben, pour moi, en fait, d'un point de vue symbolique, c'est ça qui mettait le feu aux poudres de tous les problèmes du Proche et du Moyen-Orient depuis 47 ans. Il faut se souvenir, guerre Iran-Irak, deuxième guerre du Golfe, troisième guerre du Golfe, la Syrie qui a complètement été détruite, le Yémen, etc. Donc l'Afghanistan, l'Irak, et le Liban, bien sûr. Donc c'est toutes ces zones où finalement les Iraniens ont concrètement, culturellement, historiquement des intérêts dans la région et que les Américains ne reconnaissaient pas. C'est-à-dire que comme ils ne reconnaissaient pas le pouvoir en place à Téhéran, il y avait une espèce de guerre larvée dans toute la région entre les intérêts américains et les intérêts iraniens. Et c'est peut-être cela qui va être levé.
Et donc si cet accord aboutit, on peut avoir une solution à long terme pour la région, ce dont on a l'impression est une sorte d'horizon qui n'arrive jamais depuis des décennies.
Voilà, mais c'est tout l'enjeu, si vous voulez. C'est pour ça que c'est vraiment historique ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on sous-estime le caractère extrêmement historique de ce qui est en train de se passer. Si ça va vraiment au bout, mais alors évidemment ça prendra du temps. Les Américains n'avaient jamais reconnu le régime à Téhéran. Désormais, il y a une négociation qui est au plus haut niveau entre le président américain et le guide suprême iranien pour régler les problèmes dans la région.
Et donc, si on regarde ce protocole d'accord et qu'on note qu'il n'y a rien sur les alliés de l'Iran dans la région, le Hezbollah, les houthistes, le Hamas, rien non plus sur le régime politique en Iran et donc en lien avec la liberté du peuple iranien mis en avant pourtant, ça veut dire que sur l'international et sur son propre territoire, l'Iran est souverain aux yeux des États-Unis. C'est comme ça que vous comprenez ces deux absences.
C'est-à-dire qu'ils vont cesser d'être en guerre permanente. Alors, il va y avoir évidemment des tensions, des soubresauts, etc. Une relation diplomatique, ça prend du temps, mais au moins, il va y avoir un fil de relations diplomatiques. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 47 ans, en fait, les Américains sont en guerre contre le régime iranien et de tous ses proxys dans la région, et les Iraniens, en réciprocité, sont en guerre contre tous les intérêts dans la région. Donc, si on passe à un accord de paix, c'est la paix, eh bien, nous mettons de côté, alors évidemment, avec beaucoup de prudence de chaque côté, ils se regarderont toujours un peu en chien de faïence, mais on rentre dans un accord de paix où la question militaire n'est plus la priorité, la question est la résolution des problèmes par la politique et la diplomatie.
Vous croyez que ce protocole d'accord finira par aboutir malgré Israël qui pourrait poursuivre cette opération au Liban ?
Alors c'est là où toute la question est là. Pour consolider une paix, il faut des forces d'interposition. Et notamment la France, l'Europe, etc. peuvent jouer ce rôle, notamment dans le Liban, parce que le Liban est vraiment tiraillé entre les intérêts américains, les intérêts iraniens, les intérêts israéliens, les intérêts européens, et donc, si vous voulez, et la souveraineté du Liban n'est pas respectée. Donc il faut, en accord avec le Liban, si vous voulez, essayer de trouver une position, notamment, et ce sera, je pense, le rôle de la France dans le G7, de proposer ce genre de situation, parce qu'ils l'ont déjà fait, on l'a déjà fait, pour essayer de temporiser la relation entre Israël et le Liban, pour éviter que ça ne redégénère, parce que c'est toujours extrêmement fragile, ces cessez-le-feu. Là, pour l'instant, on est dans un cessez-le-feu. Israël et le Liban sont dans un processus de paix. Il y a la question du Hezbollah. La clé du Hezbollah est à Téhéran. Et donc, il va falloir rentrer dans un jeu diplomatique pour essayer de trouver une solution pérenne sur du long terme qui permettra notamment à Israël d'être dans une zone sécurisée et le Liban d'être souverain chez eux.
Sébastien Regnault qui donc parle d'un processus d'accord historique. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.